Le micro est ouvert, oui. Il semblerait que oui. Est-ce que ça va ? Pour le niveau, tout le monde entend, y compris au fond. Plus fort, plus fort. Bon, je vais parler un peu plus fort. Bien, alors, d'abord, soyez les bienvenus à bord de ce bateau. Je crois que ça ne va pas trop bouger. Hein. Je dis ça pour les personnes qui ont un peu le mal de mer, parce qu'on s'inquiétait avec Brigitte Kernel de savoir si ça allait bouger beaucoup. Mais apparemment, non, ce ne sera pas le cas. Donc, je ne pense pas qu'on va être malade. Bien, on va en tout cas profiter de cette croisière. Pour parler... Non, on va pas... On a des petits sacs. S'il y a des petits sacs.
Arrête d'en parler.
Non, on n'est pas malade. Non, non. On n'est pas malade et on va parler, on va traiter de ce sujet qui nous est proposé, roman personnel et familial. Donc cette question de l'intime et de la famille, de la façon dont la littérature prend en charge et l'intime et la famille, ou bien l'intime ou la famille, parce que c'est vrai qu'à lire vos quatre romans, on est quand même dans des situations un tout petit peu différentes. Je commence par de rapides présentations. Lionel Duroy, qui est juste à côté de moi, vous avez été journaliste, notamment pour le journal Libération ou pour l'événement du jeudi. Vous avez publié votre premier roman en 1990. Et vous êtes l'auteur d'une quinzaine de titres, autrement dit, je ne vais pas tous les citer, juste en mentionner quelques-uns. « Priez pour nous », « Des hommes éblouissants », « Trois couples en quête d'orage », j'entends des « oh » dans la salle des gens qui ont lu, « Le cahier de Turin » ou bien encore « Écrire ». Vous avez eu le prix Renaudot des lycéens en 2012 et le prix Joseph Kessel en 2013 pour « L'hiver des hommes ». « Priez pour nous » et « Trois couples en quête d'orage » ont été adaptés au cinéma. Et votre dernier roman, celui dont nous allons parler aujourd'hui, s'intitule « Échappé » et il est paru aux éditions Julliard. Brigitte Kernel, longtemps productrice d'émissions littéraires à France Inter, auteur de chroniques aussi pour la presse écrite, notamment Cosmopolitane. Vous êtes notamment l'auteur de « Fais-moi oublier » et de « À cause d'un baiser » paru chez Flammarion. Et votre dernier roman, celui dont nous allons parler aujourd'hui, s'intitule « Dis-moi oui ». Il est publié chez Flammarion. Il vient de sortir cette année 2015. Catherine Pancol, présidente de cette sixième édition du Livre sur les quais, journaliste, romancière. Votre premier roman, Moi d'abord, est paru en 1979 aux éditions du Seuil. Et depuis, vous avez publié une vingtaine de romans qui ont été traduits dans une trentaine de langues. Donc là aussi, je ne vais pas tout citer, mais parmi les plus récents, en 2010, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, qui venait clore une trilogie qui avait été ouverte par Les yeux jaunes des crocodiles, et puis la dernière trilogie en date, Muchachas, dont le dernier volume est paru en 2014 chez Albin Michel. Et puis Daniel Picouli, romancier, scénariste également de bande dessinée, votre roman Le chant de personne avait reçu le prix des lectrices de Elle en 1996, et depuis vous avez publié vous aussi quantité de romans, ainsi qu'une saga historique autour du cheval de Saint-Georges, qui s'était ouverte avec l'enfant Léopard, qui avait reçu le prix Renaudot en 1999. Et puis parmi vos derniers romans, La nuit de Lampedusa en 2011, et celui dont nous allons parler aujourd'hui, Le cri muet de l'iguane, chez Albin Michel. Alors, la première question un peu générale, avant qu'on entre dans vos romans respectifs, c'est qu'au fond, le roman familial, puisque c'est ce qui nous réunit, c'est une vieille tradition littéraire. Hein, et on pourrait presque définir, au fond, la famille comme le creuset du roman, parce que la famille est peut-être la matrice de la forme romanesque. La première question à vous quatre, c'est est-ce que vous pourriez écrire sans ce motif de la famille, le Lionel Duroy, si vous voulez commencer?
Vous croyez que ça marche?
Ben oui, ça marche. J'ai l'impression que oui.
Bonjour, hein. Bonjour. Vous êtes très nombreux, c'est très impressionnant. Juste pour répondre très rapidement, pour laisser la parole aux autres, je trouve que l'écriture, c'est quand même une affaire de nécessité. Donc voilà, pour moi, c'est une affaire de nécessité. Donc je me suis mis à écrire vers 18 ou 19 ans. Et si le sujet de la famille s'impose, c'est parce que l'écriture est en fait l'essentiel pour comprendre ce qui s'est passé, voilà. Comment les choses peuvent arriver dans la vie. On vient tous d'endroits bizarres. Et puis, il y a un moment, l'écriture est le seul outil qui va nous permettre de comprendre comment de telles choses ont pu arriver. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de nécessité. C'est-à-dire que c'est pas le choix. On se dit pas sur quoi on pourrait écrire. Alors il y a les bateaux du lac Léman, il y a la famille, il y a les nounours. Eh ben non, je vais choisir la famille. Non, c'est pas comme ça qu'on écrit en fait. C'est vraiment une affaire de nécessité. Donc d'où qu'on vienne, on peut parler aujourd'hui des immigrés, de tout ça. Vous arrivez de quelque part et à un moment. Il faut écrire parce que vous voulez comprendre comment c'est possible. Déjà, il y a l'interrogation fondamentale de qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi on vit. Donc déjà, ce qui me fait me demander même comment on peut vivre sans écrire, puisqu'en fait, écrire est quand même la seule façon de parvenir à mettre les mots sur l'inexplicable. Donc voilà, donc, c'est ça que je voulais juste dire. Donc, si j'écris sur la famille et si l'intimité me passionne, c'est parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus mystérieux, que je viens probablement d'une famille très bizarre, mais qu'ensuite, l'intimité, c'est vraiment ce qui nous interroge le plus et ce qui aussi est le plus difficile à mettre en mots. Voilà, parce qu'il y a la pudeur, parce qu'il y a des tas de choses qui sont indicibles et qu'écrire là-dessus, ça me passionne.
Qui veut poursuivre ? Catherine ou...
Moi, je dirais à peu près la même chose que Lionel, parce que je fais toujours référence à cette phrase d'Hemingway à qui on demandait, Monsieur Hemingway, qu'est-ce qu'il faut pour être écrivain ? Et il disait une enfance malheureuse. Mmh. Et moi, je pense que, en effet, tout vient de là, donc, où on est né, qu'est-ce qu'on a fait pour... subsister, survivre quand on était enfant et comment on s'est raconté des histoires pour combler notre propre histoire. Moi, je pense que l'enfance, en tous les cas, pour moi, la plus grande histoire qu'on commence à vivre et si on se pose, si on a un enfant un peu curieux et qu'on a envie de savoir comment ça marche, on essaie de résoudre cette énigme en se racontant des histoires et en utilisant des mots ou des personnages qu'on invente. Et c'est comme ça, en tout cas pour moi, qu'est née la fiction.
Mmh. Brigitte Carnel.
Oui, je ne sais pas trop quoi ajouter à ça, parce que c'est juste, voilà, tout simplement. Alors peut-être, quand on parle d'enfance malheureuse, ça peut être aussi des enfances tout simplement très, très perturbées, avec des parents qui ont des personnalités... fantasque ou étrange, énigmatique. Il y a des auteurs, on voit des auteurs autour de nous qui vous disent j'ai eu une très belle enfance, simplement ma mère était tellement étrange, elle faisait telle et telle chose, elle jouait à la pétanque la nuit, enfin je dis n'importe quoi, ou elle avait trois perroquets sur la tête au moment où elle faisait sa prière, vous voyez ce genre de choses. Mais je vois pour ça qu'il y a une enfance extrêmement malheureuse, disons une enfance perturbée. Cela étant... quand on réfléchit à la vie, je ne sais pas là combien on est dans la salle, peut-être vous êtes, je ne sais pas, une centaine, sur 100 personnes, on pourrait faire le pari qu'il y a combien, 80 personnes qui ont une enfance perturbée. Cela étant, je pense aussi qu'on écrit petit souvent quand on devient auteur plus tard, et c'est une façon de mettre un rempart entre la réalité et peut-être, comment dire, et soi. C'est une façon de... Les journaux intimes, tout ce qu'on peut écrire quand on est gamin, des poèmes, etc. Mais ça peut être la musique aussi ou la peinture. Ça nous permet justement de remplir des vides, un sentiment peut-être de ne pas être assez aimé. L'écriture, c'est aussi un acte vers les autres, de faire des livres. Mmh. On a envie aussi d'être aimé d'une certaine manière. Qu'en pense Daniel Picouli?
Daniel Picouli, pour finir, sur ce lien nécessaire entre famille et écriture romanesque.
Moi, non, je rigole parce que je me dis que ma mère aurait dû inviter Hemingway à manger à la maison. Il serait aperçu qu'il y avait des familles heureuses. Et la mienne l'est, et que souvent, et depuis très longtemps, je dois m'excuser d'avoir été heureux, d'avoir dégouliné de bonheur, et d'honorer mes parents à longueur d'ouvrage. Moi, c'est vrai, j'écris en famille et, depuis toujours, puisque moi, il y a l'arithmétique et la famille. Moi, ma mère a fait 13 enfants. Moi, je suis le 11e.
Voilà quelque chose de déjà
Oui, singulier mais heureux. Singulier mais heureux. Et donc, j'étais le 11e, donc j'ai dû me débarrasser de mes petites sœurs qui étaient 12 et 13, comme tous ceux qui ont été des aînés. Vous avez tous eu envie de vous débarrasser de ces deux moutards que vous aviez derrière vous, grand frère, grande sœur. vous n'êtes pas obligé de l'avouer, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc j'ai commencé à écrire pour me débarrasser de mes sœurs, et après 50 ans d'écriture, je ne m'en suis toujours pas débarrassé, j'en suis très heureux. Donc moi je suis plutôt de cet ordre-là. La seule chose qui est douloureuse dans mon histoire, si tant est qu'elle le soit, c'est que mes parents ont disparu tôt, et que je me suis senti vraiment dans une obligation morale, filiale et amoureuse de leur rendre hommage. Donc je rends hommage à cette capacité qu'ont eu un homme et une femme de faire 13 gosses heureux et qui le racontent comme tel. Sinon, ce serait une grande obscénité que de me tartiner du malheur que je n'ai pas eu. Voilà, c'est tout.
Bien, mais on va regarder de façon un peu plus détaillée la façon dont vous mettez en scène les uns et les autres ces histoires familiales. Alors, Catherine Pancol, c'est vrai que chez vous, avec le fait que vous écrivez des... Il y a eu deux trilogies à l'intérieur desquelles on retrouve des personnages récurrents qui appartiennent tous à la même famille, qui ont tous des liens, pas nécessairement immédiats de famille, mais enfin, on finit par découvrir à un moment ou à un autre qu'ils sont reliés entre eux. Ce qui fait que cette architecture, qui est vraiment une architecture complexe, de renvoi d'un roman à l'autre, repose entièrement sur le fait que ce sont des familles. C'est la famille Cortès qui est la matrice des trilogies.
Mais avant, moi, c'est mon 17... C'est vous qui avez compté. Hein.
Oui, je ne sais plus. À ça, il y a eu autre chose.
C'est
oui.
Ça, moi, j'ai... Oui. Avant d'arriver à... Il y a ça aussi, c'est quand... Je pense que... moi, avant d'arriver à faire les Cortès... une espèce de famille tentaculaire, j'ai quand même dû écrire, je ne sais pas, 14 livres justement sur l'intime. À chercher, à fouiller, à creuser, justement pour... Je pense que l'écriture ne guérit absolument pas, mais elle vous renseigne sur... elle vous apprend des choses sur vous-même. Mais moi, je suis arrivée à finalement cette énorme fresque familiale parce que j'avais... j'avais beaucoup exploré justement ce dont parlait Lionel, le domaine de l'intime. Je suis pas arrivée du jour au lendemain, vous voyez, à faire ça, parce que c'est vrai que c'est il faut se débarrasser un peu de beaucoup de choses pour arriver à rentrer dans tous les personnages, les comprendre tous. Mais ça m'a pris du temps, quoi.
Oui, mais alors du coup, dans la mesure où vous aviez exploré l'intime pendant une quinzaine de romans, disons, pour simplifier, est-ce que ça signifie que maintenant, être entré dans ces sagas familiales, vous créez des personnages avec lesquels il y a une distance par rapport à votre propre histoire ?
Je ne sais pas s'il y a une distance par rapport à ma propre histoire, mais à force de creuser justement le sillon de l'intime, je me suis rendu compte que moi-même, je n'étais pas une personne. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en moi. Et toutes ces personnes... finalement, quand je crée un personnage, je mets toujours un peu de moi, même dans les plus odieuses. Hein, c'est drôle, parce que du coup, je peux reconnaître je me découpe en morceaux maintenant. Mais je pense que quand j'ai écrit moi d'abord, j'étais incapable de faire ça. Je pouvais parler de moi très bien, mais j'étais incapable de passer sur un autre personnage. Maintenant, j'arrive à passer aussi bien à rentrer dans la peau d'un personnage masculin, féminin, mais parce qu'il y a tous ces livres, toutes ces années, tout ce que j'ai vécu. C'est là où l'intime va rejoindre le romanesque.
Donc, on peut considérer que les personnages féminins, parce que si on prend Muchachas, la dernière trilogie, elle repose beaucoup sur des personnages de femmes, à travers Hortense, Zoé, Joséphine, Stella, etc. Il y a une partie de vous, un petit peu à chaque fois.
Oui, je pense.
Oui. Y compris même dans les figures de femmes les plus douloureuses, parce que vous disiez, il y en a certaines qui Léonie, qui incarne les femmes battues et maltraitées.
Moi je pense. Mais après, moi, je pense aussi que l'apparence qu'on prend en société, c'est-à-dire que l'espèce d'image comme ça, elle me sert à aller partout en société, vous voyez, mais que derrière cette apparence... Moi, il y a 14 ou 15 Catherine derrière, quoi. Donc, et ça, j'ai découvert en écrivant, en fouillant. Et c'est ça le.
On va revenir à Muchachas. Lionel Duroy, depuis Prier pour nous, en fait, vous n'avez cessé de réécrire votre histoire personnelle et familiale. Il y a toujours des nouvelles parties du récit familial qui restent à explorer. Et c'est vrai que quand on vous lit, au fond, la première question qu'on se pose, on dit, est-ce que ça a une fin ? Est-ce que ça s'arrête un jour, l'exploration des ramifications familiales ?
Non, je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas parce qu'en fait, en vieillissant et en travaillant, on découvre d'autres choses intéressantes. Enfin, Je suis en train d'écrire un livre sur la folie de ma mère, par exemple, en ce moment. Mais bon, c'est quelqu'un qui m'a toujours terrorisé, que j'ai toujours détesté, cette femme. Et vous voyez, j'ai beaucoup écrit depuis. Et aujourd'hui, ça m'intéresse de revenir, en fait, sur ce moment où elle titube et où, en fait, elle bascule dans une forme de folie. Voilà. Et c'était très compliqué d'attraper ce moment-là. Je crois que je n'aurais pas su le faire à 40 ans. Et j'y arrive aujourd'hui en passant par d'autres voies, c'est-à-dire de m'identifier à cette espèce de chagrin épouvantable qui a dû être le sien au moment où elle a senti qu'elle devenait terrorisante pour ses enfants et qu'elle était... qu'elle abandonnait, en fait, qu'elle lâchait prise. Voilà. Et ça, c'est très intéressant et c'est très compliqué à exprimer. Voilà. Et ce sont des choses qu'on traverse dans la vie.
Alors là, vous êtes en train de parler du roman qui est en cours. Oui. Mais si je retourne au dernier publié, donc Échappé, c'est intéressant parce que vous passez par le truchement d'un autre texte romanesque, qui en l'occurrence est La leçon d'allemand, d'un auteur qui s'appelle Siegfried Lenz, pour aborder en fait vos thèmes récurrents et favoris qui sont ceux du rapport douloureux à la famille. Là, il y a comme une sorte de filtre littéraire en fait qui sert non pas de prétexte parce que c'est plus qu'un prétexte, mais enfin voilà.
Ouais, c'est plus qu'un prétexte, mais c'est aussi un livre sur ce qu'apportent les livres. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve que j'ai appris vraiment et découvert la vie dans les livres, pas du tout avec les adultes, jamais. Dans nos vies, quand on regarde le nombre d'adultes, par exemple, qu'on a rencontrés et qui ont tellement, tellement compté pour nous, on va peut-être en compter deux ou trois, en fait, c'est tout. La plupart du temps, on croise des gens, vous les aimez plus ou moins, les amitiés plus ou moins se délitent ensuite. Mais au fond, combien de personnes vous ont vraiment expliqué ce que c'était que vivre et vous ont vraiment fait découvrir quelque chose? Très peu. En revanche, combien de livres? Énormément. Voilà. Et j'ai été extrêmement bouleversé par la lecture du livre de Siegfried Lenz, La leçon d'allemand, que j'ai découvert par hasard, en fait, quand j'étais en Bosnie. Et mon désir a été d'écrire la suite de ce livre. Parce que tout d'un coup, habiter un livre comme La leçon d'allemand, ça me rappelait quand j'avais 13 ou 14 ans et que j'habitais un livre pour me protéger de la folie ambiante. Et que dans les livres, c'est extraordinaire, en fait. La vie est organisée dans les livres. Catherine en parlait, quand on lit Catherine, voilà, on est dans un univers où on comprend où ça commence, où ça va finir probablement, et où on croise tous ses destins, et tout d'un coup, la vie n'est plus un chaos. Dans les livres, la vie est appréhendable. Voilà, elle est appréhendable, enfin.
Ça ordonne les choses, Catherine.
C'est extraordinaire. Et c'est rassurant, c'est vrai, c'est rassurant. Ouais.
C'est extraordinaire. C'est là qu'on comprend, peut-être, on commence à approcher ce que c'est que vivre. Parce qu'on se dit, ah ben oui, c'est comme ça, en fait, dans les livres. Quand vous lisez Tolstoï, Dostoïevski, tout ça, que vous avez 17, 18 ans, vous vous dites, en fait, c'est ça, la vie, quoi. Jamais personne ne m'avait dit comment c'était, mais là, je comprends. Et donc, en fait, on apprend la vie dans les livres. Moi, c'est ce que je trouve. Et j'ai eu envie d'écrire la suite de La leçon d'allemand, qui est un livre absolument magnifique sur la puissance du nazisme pendant la guerre et la façon dont, en fait, les nazis interdisent à un peintre, il s'agit d'Emile Nolde, qui est un grand peintre allemand, ils lui interdisent de peindre, et ils le surveillent nuit et jour pour l'empêcher de peindre. Et ça, je me disais, si nous, on nous surveillait nuit et jour pour nous empêcher d'écrire, dans quel état on serait, quoi. Voilà. Et puis, du coup, je suis allé m'installer dans le village en Allemagne où se déroule ce livre. Et j'ai écrit Échappé, mais je ne vais pas en parler pendant des heures, je vous rends la parole. Qui est un livre que j'aime, je trouve, parce que c'est la première fois que j'ai l'impression d'écrire un livre comme on peint. Voilà. Avec de la couleur, de la texture, avec du ciel, avec du vent, de la mer, etc. Et pour une fois, j'aime mon livre.
Catherine, oui.
Non, ce que je voulais rebondir sur ce que disait Lionel, qui est très très vrai. Juste quand on est enfant et qu'on vit des choses absolument qu'on comprend pas, parce que le truc quand on est enfant, moi on se connaît un peu, donc je connais un peu son enfance, il connaît un peu la mienne. Quand vous êtes enfant et vous vivez des trucs et vous vous dites juste c'est pas possible. Vous êtes en état de choc. C'est-à-dire que, mais vous savez pas comment expliquer ça, puisque c'est quand même, ça vient de votre entourage le plus cher. Et là, à ce moment-là, si vous tombez sur un livre qui raconte soit la même chose ou qui vous donne des clés pour comprendre, à ce moment-là, ça vous permet de continuer à vivre ce que vous vivez. Et à ce moment-là, ça s'inverse. C'est-à-dire que vous transformez votre réalité en fiction, donc c'est pas grave, on peut la vivre. Et le vrai monde habite, vous voyez, dans les livres. Donc le vrai monde, qui est un faux monde, vous console. Et le vrai monde qui vous fait beaucoup de peine, ben, c'est pas grave, on va s'en sortir, c'est de la fiction. Et quand les gens me disent comment vous faites pour être tellement optimiste malgré tout, c'est que justement, moi j'ai inversé les deux mondes. De dire, ok, la réalité que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, j'ai passé mon temps à me dire comment ils fonctionnent là. Mon père et ma mère, mais comment ils font? Pourquoi je suis là? Exactement les questions que toi tu te poses. Et quand j'ai découvert mon premier bouquin, et j'ai eu de la chance parce qu'il est arrivé, j'étais très très jeune, tout d'un coup je me suis dit, ah ben c'est ça que je vais choisir comme vrai monde, voyez. Et c'est vrai que dans les livres, c'est pour ça que dans les livres c'est organisé, puis il y a un début, un milieu, une fin, on vous explique ce qu'il y a dans la tête des personnages. On vous explique la vie, quoi. Et du coup, moi, j'ai échangé mes deux vies.
Oui, puis on est beaucoup moins seul, puisqu'on voit...
Et on n'est pas seul. Et on n'est plus triste.
Voilà, c'est ce que tu dis, magie, d'autres ont vécu la
c'est une famille de livres, alors.
Voilà, c'est une famille de livres.
Après, il y a une autre question qui se pose aussi, c'est... je me permets juste de la poser. Ouais. C'est comment on peut, quand ses parents sont vivants, par exemple, comment on peut parler d'eux? Il y a quand même quelque chose qui est important, qui est la présence du parent ou pas, au moment où on écrit.
Moi, je crois qu'il ne faut pas penser à eux. Il faut les transformer eux aussi en personnages.
Mais ils se reconnaissent et ils cherchent dans les livres.
Ça, c'est peut-être une question qu'il faut poser à Lionel Duroy, parce que ça le concerne. Voilà. Comment vous faites avec ça?
C'est véritablement une affaire de survie, je trouve. C'est pour ça que je parlais de nécessité tout à l'heure et aussi d'une affaire de survie. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai commencé à écrire, mes parents étaient vivants. Mais je me souviens de cette scène très effrayante, en fait, je vous la raconte en deux minutes. J'ai écrit « Priez pour nous », dans lequel je racontais comme ça la folie de ma mère, la façon dont on s'est complètement effondré. Mais c'était vraiment une nécessité, c'est-à-dire je ne pouvais pas écrire de deuxième livre sans passer par celui-ci. Et donc j'ai fait quelque chose, je suis venu avec mon manuscrit, et puis je suis allé trouver ma mère qui m'a toujours terrorisé. Elle est morte aujourd'hui, mais elle était vivante à l'époque. Donc. Et je lui ai dit « Ben voilà, tu vois, je vais publier ce livre ». Parce que je t'ai supporté pendant 20 ans, et puis maintenant, si tu m'aimes un tout petit peu, je te demande de supporter ce livre. Voilà, et comme ça, on sera quitte. Et en fait, elle a évidemment rien supporté du tout, ni elle, ni mes frères et sœurs. Et donc après, c'est une affaire de libre arbitre et de la façon dont on prend sa vie en main. Voilà. À un moment, mes 9 frères et sœurs, on est un tout petit peu moins nombreux que chez les petits coulis, on était quand même 10, c'est pas si mal, c'est pas si mal. On était 10, moi je suis le 4e et pas le 10e. Et donc mes frères et sœurs me disent, bah, si tu le publies, on te reverra plus jamais. Voilà. Et donc vous êtes en face de quelque chose qui est très intéressant, en fait, avec le recul qui est très passionnant, qui est de vous dire, il s'agit de ma vie, c'est pas parce qu'on a un clan de 10... que les autres ont le droit de s'emparer de votre destin. Donc moi, ma survie, c'était véritablement d'écrire, et donc ça a un prix, quand on sort d'un clan de gitans comme ça, c'est de dire, bon, bah, effectivement, je me choisis contre eux, voilà. Parce que sans ça, je sais que je vais pas vivre, ça c'est évident, quoi. Quand on vous demande de jeter votre premier manuscrit, c'est une affaire de survie, voilà. Donc c'est vrai que je ne les ai jamais plus revus depuis, mais je suis heureux de ma vie, voilà. J'ai fait exactement ce que je voulais faire, j'ai écrit.
Daniel Picouli, j'aimerais bien savoir comment vous vous positionnez sur cette question de la façon dont la littérature peut s'autoriser à mettre en scène des personnages proches, extrêmement proches, des personnages appartenant à la famille, et comment on passe de la personne réelle à un personnage de fiction.
Moi, c'est simple, je n'ai jamais écrit du vivant de ma mère. Jamais. Jamais parce que, moi, mon père est décédé très tôt, à 50 ans. Il était chaudronnier. C'est un métier qui use. Et donc, quand il est mort, je considérais que c'était un gars qui était mort de ses vertus. Et j'avais 22, 23 ans, et donc je voulais à peu près tuer la moitié du monde. J'étais extrêmement violent, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit des livres policiers, pour un peu me calmer. Pour un peu, je vous assure, tuer dans des livres, ça détend. Ça détend. Et ça vous libère d'une certaine eau noire. Vaut mieux ça que de passer à l'acte. Et c'est ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, chez les gamins quand on va en banlieue. Donc je n'aurais jamais écrit du vivement de ma mère pour une simple raison. C'est que cette littérature extrêmement violente, douloureuse d'un gamin qui veut mordre, elle ne l'aurait pas compris. Et elle se serait attristée. Elle aurait pensé que j'étais malheureux. Et comme toutes les mamans, elle serait posée cette question, qu'est-ce que j'ai fait pour que Daniel soit malheureux ? Et j'aurais eu beaucoup de peine et de mal à lui dire rien du tout. Tu m'as fait comme j'aurais rêvé de faire un enfant un jour. Et j'espère qu'un jour, je ferai un enfant comme celui-là. Ma mère m'a tout donné, mais elle n'aurait pas pu. Ma mère ne savait pas ce que c'était que le mot catharsie. Ma mère, elle a fait 13 enfants, mais pas beaucoup d'études littéraires. Donc, elle aurait été tout simplement malheureuse, que je n'aurais pas pu supporter. Donc, j'ai beaucoup écrit après. Et comme ils sont partis relativement tôt, moi, ce qui m'importe quand j'écris sur ma famille, c'est de leur faire vivre des choses. Vivre. Pas raconter ce qu'ils ont fait. C'est parfois même leur faire vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues. Moi, je ne suis absolument pas concerné par la notion de vérité ou par l'appellation, que je comprends très bien chez De Vigan, partir d'une histoire vraie. C'est quelque chose qui... Il y a une tyrannie de la vérité avec laquelle je ne me sens pas concerné. C'est par exemple, j'ai écrit un roman qui s'appelle « Fort de l'eau ». Mes parents, mon père nous a emmenés en Algérie pendant un été. Et c'était un effort financier important. Mon père travaillait à Alger de temps en temps. Et donc, il a embarqué la marmaille. Et l'expression dont je me souviens le plus de ma mère, c'est avec ton père, on ne pouvait pas avoir 5 minutes d'intimité. Vous étiez toujours dans nos pattes. Mais elle ne le disait pas comme un reproche. Elle disait tout simplement parce que c'était comme ça. On s'accrochait à eux, on était autour d'eux, on piaillait autour d'eux, on vivait autour d'eux, on les aimait comme ça, bruyamment. Et j'ai écrit ce roman. Et je me souviens de ma mère racontant comment elle ne pouvait pas descendre sur la plage un soir. Et donc, j'ai fait une scène où j'ai pris mes parents, j'ai écarté mes deux petites sœurs, dont je me débarrasse de façon assez, vous avez vu, constitutive, et j'ai offert à mes parents la descente de cet escalier vers la plage de Fort-de-l'Eau, et ils ont pu partir peut-être dans un coin d'obscurité de la plage, comme ça. Je leur ai fait vivre ça. Je ne l'ai pas écrit. Je leur ai fait vivre. C'est-à-dire que quand j'écris sur mes parents, je vois ce qui se passe, je le ressens, je suis avec eux, et moi, je suis, mais intimement convaincu qu'ils le vivent. Moi, j'ai un rapport très animiste aux choses qui est mon sacré à moi. C'est-à-dire que je leur parle régulièrement. Là, ma mère doit être en train de dire « Daniel, fais moins de gestes. » Tu as raison, maman, c'est vrai. C'est assez... Oui, elle me ferait ce reproche-là. Donc, moi, ce qui m'importe parfois, c'est de leur faire vivre... C'est comme une espèce de vie augmentée. Que je leur offre en écrivant. Et moi, je le vis et je le ressens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lumière d'un commissariat de police dans les yeux et puis la baignoire toute près, je serais incapable de vous dire si les choses que j'ai écrites les concernant sont vraies ou pas. Et je m'en fous. Et je m'en fous. Parce que ce qui m'importe, c'est qu'ils l'ont vécu avec moi au moment où je l'ai écrit après, ou que les gens qui l'ont lu l'ont ressenti comme ça et viennent m'en parler. Et moi, je l'ai fait revivre. Et ça, c'est mon job de bon fils. Moi, mon job, c'est être bon fils. C'est-à-dire de leur rendre, par la littérature, par les écrits, par les histoires, de leur rendre tout ce qu'ils n'ont peut-être pas vécu, mais qu'ils m'ont donné sans savoir. Donc tout ça, moi, je ne fais que restituer ça. Donc c'est ça qui m'importe le plus. C'est quant au point de vue, quant à savoir... Ouais, c'est vrai, on est 13 mômes. Et quand j'ai écrit Le Chant de Personne, qui est l'histoire de la famille, mais bien sûr, j'étais un peu inquiet de savoir. Et ils l'ont lu, et ils m'ont dit... Mais, on n'avait pas le même âge, mais au moins, ce que tu as dit de papa et maman était juste. Et pour leur expliquer ce que c'était qu'une histoire de famille qu'on raconte, j'ai dit, c'est comme un accident au carrefour. On était tous les 13 autour de cette vie-là, et il y a eu un choc, et chacun, on l'a vu. Là où on était, on a même été surpris, on s'est retourné, ou on a simplement entendu le bruit des choses. Et c'est ça qu'on raconte. Et moi, là où j'étais, je raconte le bruit de ce que j'ai vu. Voilà, c'est tout. Et vous, vous étiez ailleurs et vous avez vu autre chose. Et ça, ils l'ont profondément accepté. Et ils ne se posent même plus la question. Et parfois, certains de mes frères et sœurs sont un peu étonnés de ce qu'ils vivent ou de ce que je leur ai fait vivre. Mais en général, ils trouvent ça plutôt agréable. Voilà.
Brigitte Kernel, dans votre roman « Dis-moi oui », on pourrait... considérer que vous êtes peut-être moins directement concerné par cet intitulé de roman familial, quoique votre narratrice est prise en fait entre une quête amoureuse, elle a quitté sa compagne et elle s'aperçoit que c'est une erreur parce que c'est la femme qu'elle aime et donc elle tente de rattraper cet amour et donc elle est prise dans des considérations de doute mais aussi de culpabilité.
Et puis elle vit en même temps quand même une histoire familiale. Il y a un père à l'hôpital qui est en train de mourir. Donc voilà, il y a quand même cette histoire interpersonnelle. C'est le bateau qui se met à vibrer, mais tout va bien. Voilà, la structure familiale n'est pas étrangère hein, au roman.
Non, mais la structure familiale... Moi, mon père, effectivement, est décédé et j'ai écrit ça... Après son décès, et je pense sincèrement, donc pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a des choses que j'aurais pas écrites s'il était encore vivant. J'aurais eu peur de le choquer, j'aurais eu peur de lui faire mal parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'aurais eu peur qu'il se reconnaisse dans des impasses ou dans des choses de lui qui n'étaient pas terribles. Moi, ça m'interdit un petit peu les parents. J'ai encore ma mère et je me dis, ma mère, je pourrais, comme Lionel Duroy, en faire un sacré personnage. J'ai une de mes cousines qui m'a dit, le jour où tu écris sur ta mère, tu feras un best-seller parce que c'est tellement délirant que ça fera quelque chose d'étonnant.
Est-ce qu'elle ressemble à la mère de votre narratrice?
Pas du tout.
Qui pratique
pas
le yoga en Inde?
Non, c'est pas du tout. Non, ma mère va pas en Inde pratiquer le yoga.
Elle fait pas pousser de cannabis dans sa salle de bain.
Si seulement.
Parce que ça, c'est ce qui caractérise. Ouais.
Elle fait pas ça du tout. En revanche, elle a lu le livre et à la 50e ou 60e page, elle m'a dit, c'est pas possible, je peux pas continuer, je me vois partout. J'ai dit, mais quand même, tu fais pas ça. Évidemment qu'elle est présente dedans. Mais j'ai vraiment moi un problème avec la présence physique humaine donc terrestre du parent qui est encore vivant et c'est affreux à dire mais je pense que je ne pourrai écrire sur ma mère que le jour où elle sera plus là. J'ai pas envie de lui faire du mal, pourtant elle m'a fait beaucoup de mal dans la vie, mais je n'ai pas envie de la faire souffrir encore plus, parce que de toute façon s'ils nous font du mal nos parents, c'est aussi parce qu'ils ont souffert eux-mêmes et qu'il y a des générations derrière. Je dis toujours un bon écrivain, je peux me tromper, après c'est mon avis, je le partage comme on dit, mais j'ai toujours le sentiment que un écrivain c'est quelqu'un qui a poussé comme une petite fleur sur un terreau qui vient de générations bien plus lointaines. Le parent était malheureux, le grand-parent a été malheureux. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de... Quand on arrive à la folie d'un parent, il faut qu'il y en ait eu avant, hein, Lionel, non ? Enfin, il me semble. Hein. Donc, tout ça, voilà. Alors, pour la personne qui a récupéré, qui est votre mère ou votre père, qui a récupéré toutes ces névroses, qui vous met bien dessus, là, qui vous fait écrire quand vous êtes petit et tout... Quelle est la nécessité? Il faut peut-être arrêter la boucle pendant qu'il est vivant et dire bon, on verra plus tard. Mais cela étant, dès qu'on écrit un livre, le parent il va fouiller dedans, il se voit partout. Ma mère, à une époque, elle prenait mes livres, elle allait vers les dernières pages, les 10 dernières pages, elle disait bon, la mère, elle n'est pas dedans, apparemment, je peux lire. C'est quand même quelque chose de fou. Elle se reconnaît toujours quelque part, même si c'est pas elle. Hein, c'est... Donc voilà, je pense que c'est un empêchement. En tout cas, pour moi, c'est empêchement, évitement, la totale, quoi.
Dans Dis-moi oui, le cœur quand même du roman, c'est la question du mensonge et de la trahison amoureuse. C'est quand même ça qui est au premier plan.
Puisque, c'est important dans la vie.
Et c'est ça qui est important. Oui, voilà.
La grande question, c'est quand on est avec quelqu'un depuis très longtemps, est-ce que le regard... Attends, je vais vous poser la question à vous tous. Hein. Personne ne sera honnête si je pose la question. Est-ce que le regard ne peut pas se porter sur quelqu'un d'autre à un moment donné, surtout quand on est en période de... Je vois madame qui fait oui, bien sûr. Le conjoint est là ou pas, non? Bah oui, forcément, donc, surtout quand on est dans un moment de faiblesse, quoi, de deuil, de choses, de la vie, hein, ce qu'on vit tous à un moment, si on est fragile, si on se sent seul, et si on se sent plus capable, enfin, si on a les épaules qui dégringolent, quoi, effectivement, quelqu'un arrive, et puis, hop, une petite fleur, c'est la terre brûlée de Lanzarote, hein, une fleur surgit, et on devient tous fous hein, avec ça. Simplement, la petite fleur, la plupart du temps, elle est quand même très toxique. Voilà.
Oui.
Donc, entre mère toxique, petite fleur toxique, voilà, ça produit des livres.
Ça produit des livres. Bon. Daniel Picouli, on n'a pas encore parlé du Cri muet de l'iguane. Bon, c'est un roman qui appartient vraiment à votre mythologie familiale. Il est dans la lignée de Paulette et Roger, mais il s'agit d'un chapitre antérieur, parce que là, c'est le père de Roger hein, auquel vous intéressez. Et en fait, j'avais envie de vous poser peut-être un peu la même question qu'à Lionel Duroy tout à l'heure. Dans ce grand récit familial, est-ce qu'il reste toujours des choses à dévoiler? Est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter? Ou bien est-ce qu'il y aura toujours encore des histoires?
Non, non, faut faire confiance à la famille. Hein. C'est vraiment le coffre qui est dans le grenier. Il y en a toujours. Ouais. Et en plus, bon, c'est la façon de raconter qui importe. Moi, je raconte mon grand-père. Moi, j'ai une caractéristique relativement apparente, c'est que je suis d'origine martiniquaise. Donc, je suis Carteron martiniquais. C'est pour ce qui fait que quand j'entendais le mot Carteron à propos de Dumas, plus tard, je disais, moi, je vais être Alexandre Dumas puisque je suis Carteron. Ça paraissait relativement logique. Et donc, j'ai des origines antillaises qu'on ne me prête pas. Moi, au Maroc, on me parle en arabe. Je comprends pas. On m'engueule. On me dit, qu'est-ce qu'il y a, t'as honte ? Non, j'ai pas honte. Je parle pas arabe, c'est tout. Voilà. Et quand je vais à la Martinique, on me dit, tu parles pas créole. Je fais non, moi, je suis né dans la Seine-Saint-Denis, donc je parle pas le créole, donc je me fais engueuler aussi. Donc j'ai des origines qui me collent à la peau, si je puis dire. J'ai des apparences. Et ce qui est formidable dans une famille de 13, c'est que ma mère a quand même fait 12 gosses avec les yeux bleus et moi. C'est-à-dire que, ah oui, vous voyez mon frère à côté de moi, c'est Steve McQueen, il a les yeux bleus, et mes deux sisters sont blochantes, que c'en est une provocation. C'est comme ça, la génétique a beaucoup d'humour, et est très romanesque. Donc moi, j'ai une famille comme ça, et donc ce grand-père, j'ai un grand-père donc, qui est né en 1893, donc il a 20 ans en 1913, quand est venue la guerre, je me suis intéressé à son cas, surtout que ma mère me le racontait. Ma mère, c'est la grande raconteuse de la famille, c'est elle la vraie romancière de la famille. Ma mère, elle racontait le monde plus grand que la vie, quoi, tout simplement. Et donc, chaque fois, chez nous, il n'y avait que des héros. Ma mère, quand elle me racontait mon père, il avait gagné les guerres de 39-40 à lui tout seul. Quand elle racontait mon grand-père, les guerres de 14-18, c'est lui. C'est tout, le chemin des dames, les Dardanelles, tout ça. Et elle racontait ça à ses copines, et moi j'écoutais ça, et j'étais nourri de héros. Et donc, quand est arrivée la guerre de 14-18, j'ai commencé à écrire l'histoire extraordinaire de Jean-Jules Joseph Picouli, né en 1893, dans le quartier de Trenel, à la Martinique, et qui avait été un héros de la guerre, tout ça. Bon. Et alors, j'ai envoyé une petite lettre à une historienne, qui est la spécialiste des poilus noirs de la Martinique, il y en a une. Et elle m'a renvoyé en pleine nuit un jour un mail. Désolé, votre grand-père n'a pas fait la guerre. Donc vous êtes devant ces. Voilà, vous parlez de mythologie. On est devant une mythologie que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a construite. Je veux dire, moi, j'ai l'âge d'accepter tous ces revirements de l'histoire, ces contredits, ces trahisons. À 17 ou 18 ans, j'aurais appris ça de mon grand-père et il est certain que ça m'aurait révolté. Donc je suis parti à la recherche de l'histoire de ce grand-père, ce qui m'a fait complètement m'apercevoir que je ne connaissais rien de la Martinique, rien de son histoire, et je vous rassure, les Martiniquais non plus. Donc, et j'ai donc investi l'histoire, me suis posé la question de savoir quel âge avait mon grand-père dans les différents grands moments de la Martinique, que ce soit l'éruption de la montagne Pelée, que ce soit à l'arrivée de la guerre, tout ça. Donc j'ai inséré mon grand-père dans cette histoire. Et après, j'ai redécouvert une histoire encore plus belle. Parce que la Martinique a cette caractéristique, c'est que quand vous êtes élevé dans une habitation, vous avez les enfants du maître qui sont élevés avec les enfants de la cuisinière. C'est ce qui est arrivé à mon grand-père. Donc il a eu une éducation un peu décalée et il a vécu une de ces histoires impossibles. Moi, je suis un produit du métissage. J'ai un papa noir, une maman blanche, et ça remonte comme ça. Et j'ai fait la même chose. Et j'ai fait. Moi, je suis Carteron, ma fille, elle est Octavone. Après, c'est Toblerone, il n'y a plus rien, il n'y a plus de couleur. On ne sait pas. Et donc, je suis encore fondamentalement ému quand je vois des couples mixtes, parce que j'ai toujours l'impression qu'ils s'appuient ou qu'il y a eu un moment où ils ont eu le courage d'eux. Et mon grand-père a épousé ma grand-mère en 1918, dans les Pyrénées, là-bas, du côté de Tarbes. Donc j'aurais toujours prêté un courage extraordinaire dont je considère que je suis un détenteur et que je dois exercer ce courage-là. Et je l'ai exercé dans ma vie. C'est pas du courage, c'est effectivement de l'amour. Mais il n'empêche que ça ressemble à ça. Donc je raconte cette histoire-là. Et comme tu le disais, on peut tomber amoureux. Et mon grand-père a vécu cette vie avec ma grand-mère, dont il est tombé amoureux à Tarbes, mais il a vécu une autre vie amoureuse avant. La vraie question est, est-ce qu'on peut aimer deux fois pour la première fois ? Et c'est une des questions de cette histoire-là, puisque bien sûr ce sera un secret qu'on peut changer de vie. Quand il est venu pour la guerre en métropole, il a oublié cette histoire et il a reconstruit une vie pleine, heureuse et honnête. Mais quand le secret revient, ça peut détruire effectivement une famille, ou en tout cas un amour, ou en tout cas un couple. Voilà. Mmh. Donc c'est cette histoire-là, mais qui moi... m'a émerveillé, parce que je suis parti du mythe, j'ai été un peu j'ai fait brutal avec cette historienne, mais après il s'agissait c'était un vrai défi, c'était le combat de l'histoire contre le roman. Pour moi, le roman l'emporte toujours sur l'histoire, Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où je lui ai dit, je m'en fous complètement presque de la réalité. Ce qui m'importe, c'est d'avoir construit un romanesque plus solide, plus fort, plus intéressant, qui me mène plus loin. Il y a plein de mensonges qui nous mènent plus loin que des vérités. J'ai écrit Le Chant de Personne, et pour ceux qui l'ont lu, il y a une première scène, et je terminerai là-dessus, une première scène qui est emblématique de tout ce que je veux faire en matière de littérature. C'est moi découvrant gamin mon père, qui est un beau black, qui a une cicatrice dans le dos comme ça, de 50 cm autour de son omoplate. Et quand je vois ça, c'est la première fois que je vois mon père, le corps de mon père blessé. Il y a deux solutions et j'ai deux vies différentes. Mon père me dit la vérité, parce qu'il a lu « J'élève mon enfant », page 54, il faut lui dire la vérité. Et il me dit, j'ai eu un pneumothorax à billes, j'ai eu une pneumonie, on m'a ouvert le poumon, c'est pour ça que je suis allé dans un sanatorium et tout ça. Donc je pars pour une vie avec peut-être 20 ans de psychanalyse à 100 euros la séance. Okay ? Mon père, il a pas lu « J'élève mon enfant » et je lui dis la vérité. Mon père, il ne connaît pas ces trucs-là. Il me regarde et il fait « Tu sais ça ? C'est une griffe de tigre. » Une griffe de tigre, c'est-à-dire que toute la journée, moi, j'ai été le fils d'un gars qui avait chassé le tigre avec le maharaja de Bourou Bourou à dos d'éléphant. J'étais un héros, il m'avait menti. Et il m'a menti, et ma mère aussi savait ça, faire ça très bien. Donc j'entretiens le mensonge vivant. Ça, je peux vous le dire. Et pour l'instant, le mensonge m'a toujours emmené plus loin que certaines vérités. Donc en ce moment, je vous mens.
Catherine Pancol, vous disiez tout à l'heure que, à travers chacun de vos personnages, il y avait une petite partie de vous et que probablement la Catherine que l'on connaît, on peut la retrouver à travers chacun de ces personnages. Est-ce que ça veut dire que cette famille de la famille Cortés, qu'on retrouve depuis maintenant trois trilogies, est-ce que cette famille-là est devenue une famille réelle avec laquelle vous vivez de la même façon que vous pourriez vivre avec des êtres dits réels, justement ?
Ah oui, pour moi, ils existent.
Ils existent. Mmh. 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 C'est une vraie famille.
Enfin, en tout cas, c'est des vrais gens. Ah. Oui, non, c'est... Moi, j'ai pas du tout la notion... j'ai pas du tout la notion de famille, moi. C'est pas étonnant, mais c'est pour ça que j'ai moins de... Vous voyez,
et pourtant, vous en fabriquez une extraordinaire.
Voilà, alors. C'est peut-être pour ça que je me suis inventée une famille. Parce que j'ai pas de famille, en fait. Oui. Donc, c'est pour ça que peut-être pour ça, oui. Mais je pense aussi que ça a beaucoup à voir avec l'enfance, l'écriture. C'est vrai, quand on écoute Daniel, moi j'écoute comme s'il racontait, c'est un conte qui pour moi n'existera jamais. C'est encore autre chose, parce qu'on n'a pas eu la même... C'est ça qui est intéressant. On a le sentiment qu'il peut nous raconter les mille et une nuits, et on est encore là demain matin, et il sera tout seul en scène, et il fera plein de gestes. Et parce que fondamentalement, on ne vient pas du même pays. Quoi, on n'a pas... moi, je veux dire, c'est vrai que pour moi, la famille... Tu vois, moi, la famille, c'est un truc qui me parle pas du tout, quoi. Vraiment. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'invente toutes ces vies, tous ces gens. C'est possible. C'est possible.
Ouais. Oui, surtout que vous avez créé une famille particulièrement compliquée à l'intérieur de, à l'intérieur de laquelle il y a absolument tous les cas de figure.
Parce que j'ai mis...
Il y a de tout.
Oui,
les trahisons. Deux sœurs amoureuses d'un même homme. Enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, fantasmer. Parce
ça, c'est le
souvent...
pouvoir de l'imagination. Voilà. Moi, maintenant, je peux me recréer une immense famille. Oui. Ouais. Parce que moi, les Noëls, on était peut-être mon frère et moi au pied du sapin, vous voyez. Moi, la famille, c'est un truc que je ne... Alors, c'est peut-être pour ça, en fait, que j'invente tous ces gens et toutes ces situations. Ça a dû me manquer, peut-être. Alors, ça m'a manqué si j'écoute Daniel, ça ne m'a pas manqué si aussi... Mais c'est aussi le côté formidable des livres et de la littérature. C'est que, vous voyez, c'est ça qui est vachement intéressant, quoi. C'est encore un autre cas. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile. C'est difficile, votre exercice, là, en ce moment, de faire parler tout le monde sur un même thème. C'est impossible. Parce que vous avez quatre personnes différentes qui ont des histoires différentes et qui ont réagi à leurs histoires différentes en inventant des histoires qui n'ont rien à voir. Voilà. Donc, c'est pour vous, ça doit être impossible de faire l'interview, je pense.
Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête là.
Non, mais c'est très compliqué parce que c'est sûr que la famille ici, la famille,
elles ne se ressemblent pas.
Ça n'a rien à voir, rien à voir. Et ça forge des sensibilités qui, du coup, n'ont rien à voir.
et comment on compense. Ce qui est intéressant aussi, moi, ce que j'aime bien dans toutes ces histoires-là, c'est comment, parce qu'on est tous, un enfant, parce que là, vous avez quatre enfants qui vous parlent, hein, quand même, en gros, hein. On est tous un enfant. Et comment, avec ce qu'on a reçu, et avec cette envie de comprendre, parce qu'en tous les cas, là, peut-être Daniel n'a pas envie de comprendre, parce que lui, là, il n'y avait pas de mystère, quoi. Mais les trois, là, on a envie de comprendre. Et comment on réagit à ce besoin de comprendre, c'est ça aussi. Et c'est une énigme. C'est une énigme. Parce qu'on veut savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Et c'est ça aussi qui donne envie d'écrire. Pourquoi moi j'ai... Parce que moi je voyais aussi des petites copines qui avaient des parents comme les siens. Je me disais, waouh, c'est que ça existe. Et pourquoi? Et c'est cette espèce d'interrogation, je trouve, de comme lui qui écrit, c'est vrai. Parce que lui, sa famille, c'est totalement romanesque. C'est un truc de ouf, sa famille, quoi. Mais chaque personnage, il en fait aussi un personnage presque de KPDP. Parce que c'est pittoresque, quoi. C'est la manière dont tu en parles, c'est toujours... c'est très romanesque. Et moi, un jour, je suis allée voir ma mère, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, parce que je ne la vois plus, parce qu'elle est toujours vivante, résistante, et je lui ai dit merci. C'est-à-dire que j'ai sonné à sa porte, on ne s'était pas vu depuis très longtemps, et qu'elle m'a fait rentrer, et j'ai dit, maman, je voudrais te dire merci. Là, il y a eu un grand moment de silence. Non, mais c'était très... Parce que j'ai bien regardé, là. Et j'ai dit merci parce que, finalement, tout ce que j'ai fait, et toute cette écriture, et ces milliers de pages que j'ai écrites, j'ai pas dit grâce. J'ai pas pu dire grâce. Non, ni à cause. C'est parce que tu as été ma mère. Voilà.
Comment elle l'a pris? Comment elle a
réagi? Je pense qu'elle a été très touchée. C'est très bizarre. Il y a eu... Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu... on va dire une minute où j'ai senti qu'un truc passait entre elle et moi. Et ça a été très, très émouvant. Vraiment.
Et le lendemain
été... c'est fini. Après, je suis partie. Non, mais c'est marrant. Comme alors là, j'avais repris. Vous voyez, c'est comme si moi, je m'étais réconciliée justement avec tout ce parcours. Et peut-être toi, il y a les plus vivantes. Mais c'est assez drôle d'aller voir cette personne qui, moi aussi, j'étais mais en état de... Parce que je ne pouvais pas comprendre. Mais là, aller la voir, moi grande, elle grande. Donc moi, j'avais laissé la petite fille sur le paillasson, là. Et je lui ai dit, merci.
Ça a dû être un... Ouais, non, c'était beau,
moi, pour moi, ça
moment.
A été bien. Mais je pense que pour elle aussi, ça a été bien.
Et ça a changé quelque chose dans le livre suivant, donc pour les personnages?
Non, parce que un peu comme Lionel, c'est devenu des personnages. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est pour ça. On a quatre situations très différentes là. Pour moi, elle m'a permis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Lionel, c'est qu'il y a un moment, on se dit. Moi, je me suis dit à ces petites filles, c'est eux ou moi, quoi. Il y a un moment où, tant pis, quoi. C'est exactement ce que je dis. Vous m'avez tapé sur la tronche. Maintenant, chacun, ouais.
J'aimerais bien qu'on vous pose à tous la question que tout à l'heure Brigitte Garnel disait, moi, quand ma mère lit mes romans, elle se cherche partout. Donc la façon dont le roman peut fonctionner comme miroir pour vos proches, est-ce que vous avez régulièrement des réactions, des retours sur quelque chose qui serait de l'ordre de tu as écrit dans la fidélité de ce que je suis ou dans la trahison de ce que je suis? Est-ce que la famille porte sur le romancier un regard qui est parfois difficile à vivre, au fond, qui peut être, j'imagine, difficile à vivre? Lionel Duroy.
C'est marrant parce que... J'ai fini par conceptualiser ce truc-là et j'appelle ça la rencontre du fait divers avec la littérature. C'est-à-dire que, regardez un livre, j'en parlais l'autre jour, ça m'intéresse vraiment, ce livre de Christine Angot, par exemple, qui s'appelle « Une semaine de vacances », qui est un tout petit livre, qui est un livre insupportable, mais véritablement insupportable. C'est-à-dire, il fait 80 ou 90 pages et à chaque page... Vous priez le Seigneur, même si vous ne croyez pas en Dieu comme moi, que le livre s'achève parce que c'est insurmontable comme souffrance. Hein ? Elle raconte donc une semaine de vacances où son père la viole, d'accord ? Voilà. Donc c'est un monument de littérature, ce texte. C'est un exceptionnel, d'une violence inouïe. Et je suis heureux de savoir que ce texte existe. Mais vous imaginez bien que si le père de Christine... avait été encore vivant, il aurait fait saisir le livre et la justice, évidemment, lui aurait donné raison. Hein. Donc, ce livre-là n'existerait pas aujourd'hui parce qu'il a vraiment toutes les caractéristiques pour être interdit et pilonné du point de vue du père seulement. Hein. Donc, pour moi, le père, c'est le fait divers. Quoi. Et le livre de Christine Angot, c'est la littérature. Alors, très souvent, le fait divers rencontre la littérature. C'est-à-dire que ma mère aurait pu porter plainte pour que je ne publie pas Prier pour nous. C'est-à-dire que régulièrement, quelqu'un qui se reconnaît ou qui croit se reconnaître dans un livre va aller auprès de la justice pour demander la destruction du livre. Voilà, c'est un fait divers, c'est un tout petit phénomène qui pourrait définitivement empêcher l'existence du livre. Alors Flaubert a eu des procès, on le sait, enfin bon, on ne va pas énumérer tous les écrivains d'autrefois qui ont eu des procès. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, quoi, de porter plainte contre un livre. Quelqu'un qui se reconnaît va porter plainte. Je n'ai pas beaucoup d'estime de toute façon pour la justice. Je m'en fous et je trouve que les magistrats n'ont pas à juger de ce que c'est qu'un livre ou de ce que n'est pas un livre. C'est pas à des critères. Bon, ben, une personne est vexée parce qu'elle se reconnaît dans un livre en train de faire... j'espère qu'on va pas lui donner raison parce que sans ça, il y aura bientôt plus de littérature. Enfin, je veux dire, c'est pas intéressant. On travaille 18 mois, 2 ans sur un livre pour parvenir à mettre des mots sur quelque chose d'essentiel et de profond. C'est pas quelqu'un qui va se reconnaître dans le type qui vous a donné la claque qui va parvenir à détruire un livre. Enfin, c'est tellement disproportionné, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc, je m'en fous, et puis ça arrive régulièrement. Moi, j'ai eu un ou deux procès, voilà.
Daniel Picouli, sur cette question du roman comme miroir dans lequel des proches, la famille, peuvent se reconnaître, aller se regarder, et éventuellement voir une image d'eux-mêmes qui ne leur plaît pas nécessairement. J'imagine que c'est quelque chose auquel vous avez été confronté.
Bah justement, non.
Non.
Non, chez moi, on ne me lit pas. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont bien vite compris ce qu'il en était de ce que j'écrivais par rapport à ce qui pouvait être l'histoire de la famille. Ce qu'ils aiment, c'est ce qui se produit autour du livre. Ce qu'ils aiment, bien évidemment, c'est lire une histoire dans laquelle, effectivement, la famille est en toile de fond, ou même les personnages sont très précisément eux ou pas. Mais moi, je suis d'une famille ouvrière qui a un rapport au livre qui est assez distancié. C'est-à-dire que dans les familles, souvent, les rôles comme ça sont répartis. J'ai une sœur, celle qui fait la maison, celle qui fait l'autre, il fait le Noël. J'ai un frère qui s'occupe des voitures. Mon boulot, c'est d'écrire l'histoire de la famille. C'est mon job, donc on me l'a concédé et il y a très peu de retours. Et mon plus grand non-lecteur, c'est ma fille. Ma fille n'a rien lu de moi, mais alors rien. Et résiste, elle vient d'avoir son baccalauréat. Et d'ailleurs, je lui avais prédit qu'elle aurait Madame Bovary. Elle l'a eu parce qu'elle l'a... Bah oui, toute l'année, elle a dit « J'espère que j'aurai pas Madame Bovary ». Mais pour des raisons qui... Non, c'est juste une insiste parce que je pense à elle, parce que je pense tout le temps à elle, ça c'est autre chose. Mais je veux dire que moi aussi, je suis par contre très heurté par ce qui se passe à l'école par rapport au livre. Par rapport au roman, par rapport à l'étude de la littérature. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je parle avec les copines de ma fille, quand ils ont un sujet, donc je dis Madame Bovary, la première chose qu'ils font, c'est aller sur Internet pour prendre tous les avis, tout ce qu'on a dit, toutes les questions, toutes les analyses, toutes les critiques. Ils en font plus ou moins la synthèse ou plus ou moins un copier-coller et le recrachent à leur prof. Le vrai scandale, c'est pas qu'ils fassent ça, c'est que ma fille revienne avec un 17 ou un 18. C'est le cas de tous vos enfants. C'est exactement ce qui se passe. Et ça, très étrangement, pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui à l'école, et je ne sais pas ce qu'il en sera des romans qu'on va écrire et de ce qu'il en sera du rapport des jeunes à la littérature, mais on leur donne aussi l'impression que l'on peut ne pas lire et savoir. Que l'on peut ne pas se plonger, comme tu dis, des expériences, découvrir la vie dans les romans, et que Internet a fait le travail pour nous, et qu'on a une espèce de prédigestion de la vie, des émotions, et de ce que l'on ressent et de ce que l'on va vivre par cet intermédiaire-là. Et la preuve que c'est vrai, puisque l'école le valide et nous met une bonne note. Et ma fille a profondément, parce qu'ils sont aussi, ils ont un esprit romanesque, ils l'ont fait, ça a fonctionné, ils y croient. Et c'est ça qui est le pire, c'est qu'ils croient. Ma fille défendrait ici devant vous qu'elle a lu Madame Bovary. Elle finit par le croire. Bon, vous allez dire, elle a un père menteur, donc ça aide, mais je balaye cet argument et ça m'inquiète. Et le pire, c'est que fondamentalement, je crois que ma fille me lit. que ma fille me lit en douce et que ne me le dit pas et qu'elle me le dira peut-être jamais. Le pire, ce serait qu'elle prenne des notes sur Internet. Ça, oui. Bon.
Mais ça, c'est une question extrêmement intéressante que vous soulevez là, parce que quand on aborde la question du roman familial, là, jusqu'à présent, on l'a plutôt envisagé du point de vue des ancêtres, la façon dont vous, romancier, mettez en scène vos parents. Voilà. Mais il y a la question dont vous êtes lu par vos propres enfants. Et je ne sais pas l'expérience que vous avez les uns et les autres de cette question-là. Est-ce que ça participe aussi à cette notion de roman familial, le fait que vos enfants viennent greffer un regard sur ce que vous inventez ou sur ce que vous réinventez du réel?
Moi, je pense à personne quand j'écris, en fait. Je pense pas à mes... Non, sinon vous écrivez. Si vous commencez à dire, j'écris pas ça à cause de mon père et ma mère, j'écris pas ça à cause de mes enfants, j'écris pas ça à cause de ma concierge qui va me regarder mal. Non, mais vous écrivez, on n'écrit plus.
Moi, mais ils ont un regard.
Ah, non, je ne leur ai même pas demandé. On parle pas de ça. On parle pas de ça, nous. On parle des livres des autres. On parle. Cet été, on avait un grand débat sur Fitzgerald et Kennedy, vous voyez. On parle pas de mes livres, en tous les cas. Pas du tout. Fitzgerald et Hemingway, alors que, voilà. Mais on va pas parler de mes livres à la maison, vous voyez. Et moi, je leur demande pas si... Non, je trouve que quand on est... Je trouve que ça n'a rien à voir. Justement, le truc de famille, c'est pas au sens... C'est ça, c'est que votre famille, ça devient d'autres gens, quoi. Ça devient. On étudie peut-être leurs névroses et leurs problèmes, mais on en fait d'autres. Je suis sûre qu'on en fait d'autres personnages, quoi. C'est pas. Moi, je me suis inspirée de ma mère, par exemple, qui est aussi un personnage romanesque, mais pour faire Henriette, c'est sûr, quoi. Mais c'est pas elle en même temps, vous voyez. Mais c'est vrai que j'ai piqué beaucoup de choses. Mais non, le reste, c'est pas. Parce que sinon, on s'interdit beaucoup, beaucoup de choses. Hein, vous rendez compte c'est vrai, il n'y a plus de liberté. Écrire, on écrit pour soi. Enfin, moi, en tous les cas, j'écris. Je me raconte des histoires à moi, j'écris pour moi et j'invente des personnages pour moi, pas pour les autres du tout.
Oui, mais tu réponds pas à la question, en fait. C'est parce que la question que je trouve très intéressante, vraiment, mais ce serait bien qu'on en parle, mais... C'est vraiment un fardeau, je pense, d'être enfant d'écrivain. Mais quel que soit ce qu'écrit l'écrivain. Moi, j'ai 4 enfants, hein, donc je regarde. Il y a une espèce de pudeur des enfants qui tourne autour des livres, qui peut-être, comme le dit Daniel, pour certains, pas tous, vont lire quelques pages en cachette. Mais il y a quand même quelque chose d'invraisemblable pour un enfant à entrer dans l'univers de la mère ou du père à ce point-là. Mais quel que soit le roman, hein, pas forcément parce qu'on raconte... D'abord, on raconte jamais sa vie, c'est pas vrai. Ouais. Je suis d'accord Delphine de Vigan, que j'aime beaucoup, quand elle dit « À partir du moment où on se met à écrire, on écrit un roman. » Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'écriture qui ne soit pas romanesque. Ouais. Même si je travaille sur ma famille, c'est vrai, depuis
un paquet de livres. Hein.
Bien sûr. Donc, c'est autre chose. Il n'empêche qu'être enfant de quelqu'un qui passe son temps comme ça à être le greffier de la vie, c'est quand même très impressionnant pour des enfants. Parce que ça veut dire qu'en fait, s'ils lisent, c'est comme si vous leur permettiez de venir se promener dans votre cerveau, quoi. De venir se promener en vous, dans votre intimité. Et là, je ne parle pas de regarder par le trou de la salle de bain. C'est pas ça. Mais un enfant a besoin, malgré tout, je pense, que les parents demeurent mystérieux, avec leur part de mystère impénétrable. Et lorsqu'on travaille comme ça depuis des années sur des livres, ils ont l'intuition que s'ils pénètrent à l'intérieur des livres... ils vont finir par tout comprendre et tout savoir de la mère ou du père. Et c'est vertigineux, je pense. Je pense que c'est pas possible. Et le sujet des enfants d'écrivains, moi, véritablement me passionne. J'ai fini par être très ami avec les deux filles d'un homme qui a eu le Goncourt en 55, donc tout le monde l'a oublié, qui s'appelait Colin. Et ces deux filles-là, très tôt, je les connais depuis très longtemps, l'une est avocate, l'autre est l'épouse d'un ethnologue avec lequel je travaillais en Nouvelle-Calédonie. Et bien, ces deux femmes-là ont vécu le père écrivain comme un cauchemar, mais véritablement comme un cauchemar. C'est-à-dire qu'à un moment, Colin, qui est peut-être mort aujourd'hui, s'est remis à écrire. Il a fait un manuscrit et il a su par ses filles qu'elles me connaissaient, et il m'a appelé un jour en me disant, j'ai écrit un livre, est-ce que vous pourriez vous en occuper? J'en ai parlé chez Julliard, et tout de suite, Julliard, il savait qui c'était. Ils ont dit, oui, ça nous intéresse beaucoup, on veut lire. Et les filles étaient mortifiées, parce qu'elles espéraient qu'une chose, c'est que surtout, on n'allait pas publier l'ultime manuscrit du père, quoi. Et donc voilà, j'ouvre le sujet, c'est tout.
Non, mais tu as raison. Voilà. Mais il y a une chose différente, c'est que toi tu es un papa, mais moi je suis une maman. Et c'est très différent. Parce que quand tu es une maman, je ne sais pas comment dire, tu as un rapport à l'intime tous les jours. Et moi, donc il y avait pour. Je pense que pour. D'abord, ils n'ont pas le même nom que moi, déjà, ça dégage. Hein. Ils ne portent pas mon nom, mes enfants. Alors, c'est déjà un truc. Hein. Et une protection. J'ai pas mes livres à la maison, pratiquement pas. Ils sont à la cave, moi j'ai mis à la cave. Toi, donc ça n'existe pas. Et une maman, c'est quoi une maman? C'est celle qui va leur faire le petit déjeuner, qui va leur faire des petits plats. On joue beaucoup. Il y a un domaine, tu vois, maternel. Il y a un truc très... Il y a une relation... Très physique. Pour le coup, qui relève de l'intime. Tu vois, qui a... Et c'est pas pareil, je pense, que d'avoir un père qui représente quelque chose. Une maman, c'est très proche, tu vois. Ils peuvent même pas imaginer que. Alors peut-être maintenant ils sont grands, mais on a pris cette habitude d'être. Que j'étais la maman, moi. Je suis pas Catherine Pancol, je suis pas, tu vois, je suis une espèce d'entité qui est maman, qui console.
Ça n'a jamais fait question.
Non.
Tes enfants n'ont jamais été lire des livres en disant tiens, j'ai lu ça dans un de tes livres ou alors.
Non, mais j'aurais même jamais demandé s'ils lisaient rien.
C'est ça ne fait pas question.
Et ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Gary Grant, que j'avais interviewé sur le métier d'acteur, et qui m'avait dit. Et moi, je fais un peu ça avec le métier d'écrivain. J'avais dit quand vous interprétez un rôle, est-ce que vous le ramenez à la maison? C'était quand même un grand acteur, Gary Grant. Tu vois, il avait un côté. Et il m'avait dit quand je rentre sur la scène, sur le tournage, je mets mon manteau d'acteur. Et quand je quitte mon manteau d'acteur. Et je redeviens ce que je suis dans la vie. Et je pense que la mère, il y a un peu un truc comme ça. Et moi, je me rappelle, quand je travaillais et que les enfants étaient petits, je me donnais une heure de décompression où je fermais la porte de mon bureau, tu te rappelles, et je redescendais dans le monde des enfants, où j'étais que maman. Et où je me mettais à monter aux arbres, à jouer à cache-cache. Et je pense qu'il y a aussi un rapport. Et la mère n'a pas une figure aussi intimidante, peut-être que le père, qui a. Tu vois, je pense qu'il y a aussi une différence sur. Et puis l'autre fait, c'est qu'ils ne portent pas mon nom du tout. C'est-à-dire que pour les gens, ce ne sont pas mes enfants. Quoi. Et ça, je me suis à un moment félicité d'avoir divorcé. Parce que je me suis dit, je leur ai fait un grand. Non, mais c'est vrai, je leur ai fait un cadeau énorme. Parce qu'ils ne s'appelleraient pas Pancol, on leur dirait. Alors ça a posé une question. J'ai une petite nièce qui s'appelle Pancol. Toute sa scolarité, ça l'a poursuivie. Alors que mes enfants, pas du tout. Quoi. Et comme. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi le rôle du père et de la mère qui est différent. Il n'y a pas les mêmes rapports.
On va donner la parole au public pour qu'il y ait des questions, mais ce que vous êtes en train de dire me fait penser à une chose intéressante, parce que ça va peut-être boucler notre sujet, c'est que, en fait, l'appellation de roman familial en psychologie ou en psychanalyse, ça renvoie à une chose très précise, ce sont ces enfants qui racontent qu'ils ont été kidnappés ou adoptés, et qui s'inventent une famille idéale, en fait, qui s'inventent des parents qui leur conviennent mieux. Ben, finalement, c'est un peu ça, quand on...
Il y a aussi l'histoire du langage par rapport aux enfants ou aux neveux ou aux nièces. Si on est un tout petit peu cru, par exemple, moi j'ai une tante qui est âgée, qui a 85 ans, et dans mon dernier livre, elle a vu le mot jouir. J'ai eu un texto, elle sait écrire des textos, et elle m'a mis, quand même, tu dis des choses. Mais la littérature, elle a évolué, enfin les romans ont évolué, et on peut dire. Mais oui, mais ce qui est terrible, c'est ça aussi dans les familles. C'est que tout à coup, on imagine votre vie sous prétexte que vous. Vous employez tel mot. Alors, par rapport aux enfants, il faut imaginer ce que ça peut donner.
Il n'y a plus aucune liberté, sinon, tu vois, c'est l'envie d'être
enlevé. Moi, je pense que tout le monde. Moi, je voulais être enlevé par les Romains Michel qui habitaient chez moi. Moi, quand j'étais gamin, j'étais le fils caché de Marie-Antoinette, mais j'en étais sûr. Et tout mon boulot, ça a été, et j'en ai fait un roman, c'est de trouver un père qui ait une couleur compatible avec moi dans l'histoire de France. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur le chevalier de Saint-Georges, parce que le chevalier de Saint-Georges a été le maître de musique de Marie-Antoinette. Il s'est approché de Marie-Antoinette. Il l'a peut-être frôlé de la main à 10 ans. Ça fait un père, hein, sans problème. ça suffit. Et donc, c'est cette idée-là, bien sûr, d'être enlevé, d'avoir envie d'avoir d'autres parents, elle est d'autant plus forte quand on est sûr de l'amour de ses parents. C'est-à-dire que c'est quand même formidable. Tous les gosses veulent mourir pour être un ange et voir le chagrin de leurs parents. Ils veulent assister à leur enterrement pour voir, pour être sûr qu'ils vont être tristes. Ah, pas tous.
On va faire alors lever on les mains là,
on va voter.
Mais vous avez peur de ça. Mais qu'un gosse ait envie de ça, ait envie de voir le chagrin de ses parents. Mais moi, je trouve ça formidable. Formidable. C'est une formidable rassurance. Ça vous rassure pas. Ben, vous avez tort. C'est rassurant.
Non, mais chez les enfants aussi, il peut y avoir le.
Ça y est, c'est.
Il est parti.
Chez les enfants, il peut y avoir aussi le je vais mourir rien que pour lui faire mal et lui même faire, enfin ouais. On entend des enfants parler comme ça.
Ouais. Bon allez, à vous la parole. Y a-t-il des questions,
des témoignages?
On voit la femme
dehors. De témoignages pas trop longs s'il vous plaît. Pas trop long. S'il s'agit de témoignages, oui monsieur. Est-ce qu'il y a un micro pour
Non, oui, mais on va les balader les micros.
J'aimerais juste savoir si vous avez été ou comment est-ce que vous accepteriez d'être le héros d'un livre écrit par quelqu'un d'autre ou écrit par un membre de votre famille.
On n'aimerait pas du tout.
Enfin, moi, j'aimerais pas du tout. Si un de vous quatre prenait la décision de vous faire vous personnage.
Bah, on mentirait. Enfin, moi, si par exemple Lionel ou Catherine ou Daniel disaient viens, je vais raconter ton enfance, je me donnerais le beau rôle hein, quand même. Non, mais c'est difficile. Enfin, je veux dire, on recomposerait encore une histoire. Finalement, on ferait du roman.
Non, j'ai l'impression que c'est vraiment pas un problème, en fait. C'est-à-dire, ce serait quand même merveilleux de voir, par exemple, un de mes enfants écrire ma prétendue vie et que tout soit faux, quoi. Et j'adorerais, en fait. Vrai, faux, c'est-à-dire exactement comme le dit Daniel, c'est-à-dire complètement réinventé. C'est-à-dire comment ils ont vu ce type-là pendant des années, écrire, préparer
mais
les
si
repas.
Mais si c'était à ton désavantage.
Mais ça l'est forcément. Tu connais un enfant par Daniel Piccoli qui écrit des livres.
Non, mais ça l'exception autour pas. De cette table.
Mais c'est ce qu'il nous raconte en plus. Parce mais que oui. La réalité, mais oui. C'est ce pour avoir cherché des parents comme ça un peu partout chez Dumas et autres, c'est qu'il y avait quand même un souci.
Un problème, hein.
Ça y est, on va y arriver, on y arrive.
Ce qui est une aspiration romanesque de tous les enfants. C'est simplement que vous avez peur que vos enfants aient envie d'être adoptés ou aient envie d'être adoptés par
et
quelqu'un.
Quand on a envie d'être adopté et qu'on dit que Marie-Antoinette, là, je sais pas, c'est pas possible, c'est qu'il y a quand même un gros souci et qu'on le cache.
Non, tout, parce que vous avez commencé en nous disant j'ai une enfance heureuse.
Absolument. Hein, je vais raconter comment je suis tombé amoureux de Marie-Antoinette.
La vérité,
je vais te le dire. Quand j'étais enfant, je jouais avec des petits soldats Mocarex comme ça. Qui était en plastique. Et bon, chaque fois que je trouvais un soldat Mocarex dans un paquet de café, j'étudiais son histoire. Et un jour, Marie-Antoinette, j'ai trouvé intéressante parce qu'elle elle formait avec Axel de Fersen et puis Louis XVI le triangle qui vous fait raconter toutes les histoires. C'est-à-dire, vous aviez l'amant, la maîtresse et puis le mari. Bon, voilà, donc avec ça, vous racontez des tas d'histoires. Et j'ai trouvé dans un magazine, un jour, il y avait une espèce de starlette qui avait assuré sa poitrine à la Lloyd. Bon, ça paraît un peu étrange, mais ça arrivait aux starlettes dans les années 50. Et il y avait indiqué qu'elle avait un tour de poitrine de 106 cm comme Marie-Antoinette. Ça suffit. À 10 ans, ça suffit. Et à partir de là, le romanesque fait le reste. Et c'est comme ça qu'on est amoureux de Marie-Antoinette. Et après, il faut trouver Saint-Georges et qu'on écrit l'enfant Léopard et qu'on a le prix Renaudot. Voilà, vous avez la recette.
Ça y est. Une autre question ? Oui, madame. L'écriture est-elle impudique?
Non, mais là, moi je peux.
Oui.
Oui, oui parce que la pudeur et tout ça, je trouve que c'est des conventions sociales. Donc si on commence à s'occuper des conventions sociales, de la politesse, de ceci et de cela, il n'y a plus du tout de littérature.
Non, on écrit des modes d'emploi après.
Voilà.
Exactement. Pour ça dans l'électrique ou la télévision.
Voilà.
Moi, je crois qu'on écrit beaucoup pour cacher l'essentiel. Enfin, moi je pense que on dessine. J'ai l'impression d'avoir dessiné les 7 cercles conventionnels. Moi, je suis au centre, que je veux bien dans certains romans emmener le lecteur jusqu'au deuxième, troisième, quatrième, cinquième cercle de l'intimité, mais le dernier, non, jamais, jamais. Mmh. Mais ça, c'est mon affaire à moi.
Mmh. Voilà. Oui, ça, c'est son affaire.
Voilà. Brigitte,
les auteurs du 7e cercle.
Brigitte, vous n'avez pas vraiment répondu. Vous avez dit oui, mais.
Je pense que c'est impudique, oui. Mmh. Voilà. Mais je vois même pas comment le commenter, puisque c'est impudique, que forcément...
Par essence, oui. L'écriture
quoi
est impudique.
Écrit, même si on écrit la biographie de, je sais pas, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar ou je ne sais qui, en voulant romancer un peu la vie, on est impudique parce qu'on va mettre des choses de soi et qu'on va en profiter, parce qu'on a tous envie d'en profiter pour mettre un petit truc, paf, qui nous appartient aussi, quoi. Mmh. Donc c'est toujours impudique, oui. Mmh. Mmh. Et heureusement...
Autre question ? Ah, on est arrivé. Oh là là, bon ben non, il n'y aura pas d'autres questions. Bon ben merci.
La question c'est avez-vous faim ?
Merci infiniment à vous quatre.
Merci à vous tous.
Merci beaucoup. Merci.